Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Troisième partie de Boule de Suif, de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Boule de Suif, de Guy de Maupassant. Boule de Suif, troisième partie. On descendit le lendemain avec des visages fatigués et des cœurs exaspérés. Les femmes parlaient à peine à Boule de Suif. Une cloche tinta. C'était pour un baptême. La grosse fille avait un enfant élevé chez des paysans d'Yvetot. Elle ne le voyait pas une fois l'an et n'y songeait jamais. Mais la pensée de celui qu'on allait baptiser lui jeta au cœur une tendresse subite et violente pour le sien, et elle voulut absolument assister à la cérémonie. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda. Puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. L'oiseau eut une inspiration. Il était d'avis de proposer à l'officier de garder Boule de Suif toute seule et de laisser partir les autres. M. Follenvie se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mis à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de Mme Loiseau éclata.
Nous n'allons pourtant pas mourir de vieillesse ici. Puisque c'est son métier à cette gueuse de faire ça avec tous les hommes, je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre. Je vous demande un peu, ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi, il achète son vin à la maison. Et aujourd'hui qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijaurée, cette morveuse? Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Et nous étions là trois qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc, il est le maître. Il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. Les deux femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carrie Lamadon brillaient, et elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes, qui discutaient à l'écart, se rapprochèrent. Loiseau, furibond, voulait livrer cette misérable pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de trois générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté.
« Il faudrait la décider, »
dit-il. Alors on conspira. Les femmes se serrèrent, le ton de la voix fut baissé. Et la discussion devint générale, chacun donnant son avis. C'était fort convenable du reste. Ces dames surtout trouvaient des délicatesses de tournure, des subtilités d'expression charmantes pour dire les choses les plus scabreuses. Un étranger n'aurait rien compris, tant les précautions du langage étaient observées. Mais la légère tranche de pudeur dont est bardée toute femme du monde, ne recouvrant que la surface, elle s'épanouissait dans cette aventure polissonne, s'amusait follement au fond, se sentant dans leur élément, tripotant de l'amour avec la sensualité d'un cuisinier gourmand qui prépare le souper d'un autre. La gaieté revenait d'elle-même, tant l'histoire leur semblait drôle à la fin. Le comte trouva des plaisanteries un peu risquées, mais si bien dites qu'elles faisaient rire. À son tour, Loiseau lâcha quelques grivoiseries plus raides dont on ne se blessa point.
et la pensée brutalement exprimée par sa femme dominait tous les esprits. Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre? La gentille Madame Carré-Lamadon semblait même penser qu'à sa place, elle refuserait celui-là moins qu'un autre. On prépara longuement le blocus, comme pour une forteresse investie. Chacun convint du rôle qu'il jouerait, des arguments dont il s'appuierait, des manœuvres qu'il devait exécuter. On régla le plan des attaques, les ruses à employer et les surprises de l'assaut, pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l'ennemi dans la place. Cornudet cependant restait à l'écart, complètement étranger à cette affaire. Une attention si profonde tendait les esprits qu'on n'entendit point rentrer Boule de Suif. Mais le comte souffla un léger « chut » qui fit relever tous les yeux. Elle était là. On se tut brusquement et un certain embarras empêcha d'abord de lui parler. La comtesse, plus assouplie que les autres aux duplicités des salons, l'interrogea. « Était-ce amusant ce baptême ?» La grosse fille, encore émue, raconta tout, et les figures, et les attitudes, et l'aspect même de l'église. Elle ajouta « C'est si bon de prier quelquefois !» Cependant, jusqu'au déjeuner, ces dames se contentèrent d'être aimables avec elle, pour augmenter sa confiance et sa docilité à leurs conseils. Aussitôt à table, on commença les approches. Ce fut d'abord une conversation vague sur le dévouement. On cita des exemples anciens, Judith et Holopherne, puis, sans aucune raison, Lucrèce avec Sextus, Cléopâtre faisant passer par sa couche tous les généraux ennemis et les réduisant à des servilités d'esclaves. Alors se déroula une histoire fantaisiste, éclose dans l'imagination de ces millionnaires ignorants, où les citoyennes de Rome allaient endormir à Capoue Hannibal entre leurs bras, et, avec lui, ses lieutenants et les phalanges des mercenaires. On cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants, fait de leur corps un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme, qui ont vaincu par leurs caresses héroïques des êtres hideux ou détestés, et sacrifié leur chasteté à la vengeance et au dévouement. On parla même, en termes voilés, de cette Anglaise de grande famille qui s'était laissée inoculer une horrible et contagieuse maladie pour la transmettre à Bonaparte, sauvée miraculeusement par une faiblesse subite à l'heure du rendez-vous fatal. Et tout cela s'était raconté d'une façon convenable et modérée, où parfois éclatait un enthousiasme voulu propre à exciter l'émulation. On aurait pu croire, à la fin, que le seul rôle de la femme ici-bas était un perpétuel sacrifice de sa personne, un abandon continu aux caprices des soldatesques. Les deux bonnes sœurs ne semblaient point entendre, perdues en des pensées profondes. Boule de Suif ne disait rien. Pendant tout l'après-midi, on la laissa réfléchir. Mais au lieu de l'appeler « madame », comme on avait fait jusque-là, on lui disait simplement « mademoiselle », sans que personne sût bien pourquoi, comme si l'on avait voulu la faire descendre d'un degré dans l'estime qu'elle avait escaladée, lui faire sentir sa situation honteuse. Au moment où l'on servit le potage, M. Follenvie reparut, répétant sa phrase de la veille.
« L'officier prussien fait demander à Mademoiselle Élisabeth Rousset si elle n'a point encore changé d'avis. »
Boule de Suif répondit sèchement. « Non, monsieur. » Mais au dîner, la coalition faiblit. L'oiseau eut trois phrases malheureuses. Chacun se battait les flancs pour découvrir des exemples nouveaux et ne trouvait rien, quand la comtesse, sans préméditation peut-être, éprouvant un vague besoin de rendre hommage à la religion, interrogea la plus âgée des bonnes sœurs sur les grands faits de la vie des saints. Or, beaucoup avaient commis des actes qui seraient des crimes à nos yeux. Mais l'Église absout sans peine ses forfaits quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu, ou pour le bien du prochain. C'était un argument puissant. La comtesse en profita. Alors, soit par une de ces ententes tacites, de ces complaisances voilées, où excelle quiconque porte un habit ecclésiastique, soit simplement par l'effet d'une inintelligence heureuse, d'une secourable bêtise, la vieille religieuse apporta à la conspiration un formidable appui. On la croyait timide, elle se montra hardie, verbeuse, violente. Celle-là n'était pas troublée par les tâtonnements de la casuistique. Sa doctrine semblait une barre de fer. Sa foi n'hésitait jamais. Sa conscience n'avait point de scrupules. Elle trouvait tout simple le sacrifice d'Abraham, car elle aurait immédiatement tué père et mère sur un ordre venu d'en haut. Et rien, à son avis, ne pouvait déplaire au Seigneur quand l'intention était louable. La comtesse, mettant à profit l'autorité sacrée de sa complice inattendue, lui fit faire comme une paraphrase édifiante de cet axiome de morale « La fin justifie les moyens ». Elle l'interrogeait. «
Alors, ma sœur, vous pensez que Dieu accepte toutes les voies et pardonne le fait quand le motif est pur ?»«
Qui pourrait en douter, madame ? Une action blâmable en soi devient souvent méritoire par la pensée qui l'inspire. » Et elle continuait ainsi, démêlant les volontés de Dieu, prévoyant ses décisions, le faisant s'intéresser à des choses qui, vraiment, ne le regardaient guère. Tout cela était enveloppé, habile, discret. Mais chaque parole de la sainte fille en cornette faisait brèche dans la résistance indignée de la courtisane. Puis, la conversation se détournant un peu, la femme au chapelet pendant parla des maisons de son ordre, de sa supérieure, d'elle-même et de sa mignonne voisine, la chère sœur Saint-Nicéphore. On les avait demandées au Havre pour soigner dans les hôpitaux des centaines de soldats atteints de la petite vérole. Elle les dépeignit, ces misérables, détailla leur maladie. Et tandis qu'elles étaient arrêtées en route par les caprices de ce Prussien, un grand nombre de Français pouvaient mourir qu'elles auraient sauvés peut-être. C'était sa spécialité à elle, de soigner les militaires. Elle avait été en Crimée, en Italie, en Autriche, et, racontant ses campagnes, elle se révéla tout à coup une de ces religieuses à tambours et à trompettes qui semblent faites pour suivre les camps, ramasser des blessés dans des remous de bataille et, mieux qu'un chef, dompter d'un mot les grands soudards indisciplinés. Une vraie bonne sœur rentemplant dont la figure ravagée, crevée de trous sans nombre, paraissait une image des dévastations de la guerre. Personne ne dit rien après elle, tant l'effet semblait excellent. Aussitôt le repas terminé, on remonta bien vite dans les chambres pour ne descendre le lendemain qu'assez tard dans la matinée. Le déjeuner fut tranquille. On donnait à la graine semée la veille le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après-midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de Boule de Suif et demeura derrière les autres avec elle. Il lui parla de ce ton familier, paternel, un peu dédaigneux, que les hommes posés emploient avec les filles, l'appelant
« ma chère enfant »,
la traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée. Il pénétra tout de suite au vif de la question.
« Donc, vous préférez nous laisser ici, exposés comme vous-même à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie ?»
Boule de Suif ne répondit rien. Il la prit par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester « monsieur le comte », tout en se montrant galant quand il le fallut, complimenteur, aimable enfin. Il exalta le service qu'elle leur rendrait, parla de leur reconnaissance, puis soudain, la tutoyant gaiement,
« Et tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. »
Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire? Si elle résistait, quel embarras? L'heure du dîner sonna. On l'attendit en vain. Monsieur Follenvie, entrant alors, annonça que Mademoiselle Rousset se sentait indisposée et qu'on pouvait se mettre à table. Tout le monde dressa l'oreille. Le comte s'approcha de l'aubergiste et, tout bas,
« Ça y est ?»«
Oui. » Par convenance, il ne dit rien à ses compagnons, mais il leur fit seulement un léger signe de la tête. Aussitôt, un grand soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines, une allégresse parut sur les visages. L'oiseau cria
« Saperlipopette ! Je paye du champagne si l'on en trouve dans l'établissement. »
Et Madame Loiseau eut une angoisse lorsque le patron revint avec quatre bouteilles aux mains. Chacun était devenu subitement communicatif et bruyant. une joie égrillarde emplissait les cœurs. Le comte parut s'apercevoir que Madame Carré Lamadon était charmante. Le manufacturier fit des compliments à la comtesse. La conversation fut vive, enjouée, pleine de traits. Tout à coup, l'oiseau, la face anxieuse et levant les bras, hurla « Silence !» Tout le monde se tut, surpris, presque effrayé déjà. Alors il tendit l'oreille en faisant « Chut !» des deux mains, leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau et reprit de sa voix naturelle « Rassurez-vous, tout va bien !» On hésitait à comprendre, mais bientôt un sourire passa. Au bout d'un quart d'heure, il recommença la même farce, la renouvela souvent dans la soirée. Et il faisait semblant d'interpeller quelqu'un à l'étage au-dessus, en lui donnant des conseils à double sens puisés dans son esprit de commis voyageur. Par moments, il prenait un air triste pour soupirer « Pauvre fille !» Ou bien il murmurait entre ses dents d'un air rageur « Gueux de Prussien va !» Quelquefois, au moment où l'on n'y songeait plus, il poussait, d'une voix vibrante, plusieurs « Assez, assez !» et ajoutait, comme se parlant à lui-même, « Pourvu que nous la revoyons, qu'il ne l'en fasse pas mourir, le misérable !» Bien que ces plaisanteries fussent d'un goût déplorable, elles amusaient et ne blessaient personne, car l'indignation dépend des milieux comme le reste, et l'atmosphère qui s'était peu à peu créée autour d'eux était chargée de pensées grivoises. Au dessert, les femmes elles-mêmes firent des allusions spirituelles et discrètes. Les regards luisaient. On avait bu beaucoup. Le comte, qui conservait même en ses écarts sa grande apparence de gravité, trouva une comparaison fort goûtée sur la fin des hivernages au pôle et la joie des naufragés qui voient s'ouvrir une route vers le sud. L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. « Je bois à notre délivrance !» Tout le monde fut debout, on l'acclamait. Les deux bonnes sœurs elles-mêmes, sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à la limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. « C'est malheureux de ne pas avoir de piano, parce qu'on pourrait pincer un quadrille. » Cornudet n'avait pas dit un mot, pas fait un geste. Il paraissait même plongé dans des pensées très graves, et tirait parfois, d'un geste furieux, sa grande barbe qu'il semblait vouloir allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, l'oiseau, qui titubait, lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant « Vous n'êtes pas farce, vous, ce soir. Vous ne dites rien, citoyen ?» Mais Cornudet releva brusquement la tête et, parcourant la société d'un regard luisant et terrible, « Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie !» Il se leva, gagna la porte, répéta encore une fois « Une infamie !» et disparut. Cela jeta un froid d'abord. L'oiseau, interloqué, restait bête. Mais il reprit son aplomb, puis tout à coup se tordit en répétant « Ils sont trop verts, mon vieux, ils sont trop verts !» Comme on ne comprenait pas, il raconta les « mystères du corridor ». Alors il y eut une reprise de gaieté formidable. Ces dames s'amusaient comme des folles. Le comte et M. Carré Lamadon pleuraient à force de rire. Il ne pouvait croire.
« Comment ? Vous êtes sûr ? Il voulait... Je vous dis que je l'ai vue. Et elle a refusé ? Parce que le Prussien était dans la chambre à côté. Pas possible ! Je vous le jure !»
Le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à deux mains. L'oiseau continuait.
« Et vous comprenez, ce soir, il ne la trouve pas drôle, mais pas du tout !»
Et tous les trois repartaient, malades, essoufflés. On se sépara là-dessus. Mais Madame Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite Carré Lamadon avait ri jaune toute la soirée. « Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'il soit français ou bien prussien, ça leur est, ma foi, bien égal. Si ce n'est pas une pitié, Seigneur Dieu !» Et toute la nuit, dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers, à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là, il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des six chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège, et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui, tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame », humblement murmuré. L'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragé. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître, mais Madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla, et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée. Mais la comtesse, se tournant vers Madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence.
« Vous connaissez, je crois, Madame d'Étrelles. »«
Oui, c'est une de mes amies. »«
Quelle charmante femme !»«
Ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. »« Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. » Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait. « Coupon, échéance, prime. » À terme. Loiseau, qui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par 5 ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup, leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'Orémus. Et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, immobile. Au bout de 3 heures de route, Loiseau ramassa ses cartes.
« Il fait faim !» dit-il.
Alors sa femme atteignit un paquet ficelé, d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger.
« Si nous en faisions autant, » dit la comtesse.
On y consentit, et elle déballa les provisions préparées pour les deux ménages. C'était, dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence pour indiquer qu'un lièvre en pâte gît au-dessous, une charcuterie succulente où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fin. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé « Fait divers » sur sa pâte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail, et Cornudet, plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son paletot-sac, tira de l'une 4 œufs durs et de l'autre le croûton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien. Et elle regardait, exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leurs faits avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres. Mais elle ne pouvait pas parler, tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qu'il avait sacrifiés d'abord, rejetés ensuite comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux. Et sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants. Mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt, deux grosses larmes se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent plus rapides, coulant comme des gouttes d'eau qui filtrent d'une roche et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire
« Que voulez-vous, ce n'est pas ma faute !»
Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura
« Elle pleure sa honte !»
Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier, après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors Cornudet, qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses jambes, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce, et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même, il fredonnait les paroles.
Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs.
On fuyait plus vite, la neige étant plus dure. Et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua, avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits las et exaspérés à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Et Boule de Suif pleurait toujours, et parfois un sanglot, qu'elle n'avait pu retenir, passait, entre deux couplets, dans les ténèbres.
Fin de la troisième et dernière partie de Boule de Suif, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en avril 2009.
L'épave de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Boule de Suif de Guy de Maupassant. L'épave. C'était hier 31 décembre. Je venais de déjeuner avec mon vieil ami Georges Garin. Le domestique lui apporta une lettre couverte de cachets et de timbres étrangers. Georges me dit : Tu permets ? Certainement. Il se mit à lire 8 pages d'une grande écriture anglaise, croisée dans tous les sens. Il les lisait lentement, avec une attention sérieuse, avec cet intérêt qu'on met aux choses qui vous touchent le cœur. Puis il posa la lettre sur un coin de la cheminée, et il dit « Tiens, en voilà une drôle d'histoire que je ne t'ai jamais racontée, une histoire sentimentale pourtant, et qui m'est arrivée. Oh, ce fut un singulier jour de l'an cette année-là. Il y a de cela 20 ans, puisque j'avais 30 ans et que j'en ai 50. J'étais inspecteur de la compagnie d'assurance maritime que je dirige aujourd'hui. Je me disposais à passer à Paris la fête du 1er janvier, puisqu'on est convenu de faire de ce jour un jour de fête, quand je reçus une lettre du directeur me donnant l'ordre de partir immédiatement pour l'île de Ré, où venait de s'échouer un trois-mâts de Saint-Nazaire assuré par nous. Il était alors 8 heures du matin. J'arrivai à la compagnie à 10 heures pour recevoir des instructions. Et le soir même, je prenais l'express qui me déposait à La Rochelle le lendemain 31 décembre. J'avais 2 heures avant de monter sur le bateau de Ré, le Jean Guiton. Je fis un tour en ville. C'est vraiment une ville bizarre et de grand caractère que La Rochelle, avec ses rues mêlées comme un labyrinthe et dont les trottoirs courent sur des galeries sans fin, des galeries à arcades comme celles de la rue de Rivoli, mais basses, ces galeries et ces arcades écrasées, mystérieuses, qui semblent construites et demeurées comme un décor de conspirateurs, le décor antique et saisissant des guerres d'autrefois, des guerres de religions héroïques et sauvages. C'est bien la vieille cité huguenote, grave, discrète, sans art superbe, sans aucun de ces admirables monuments qui font Rouen si magnifique, mais remarquable par toute sa physionomie sévère, un peu sournoise aussi, une cité de batailleurs obstinés, où doivent éclore les fanatismes, la ville où s'exalta la foi des calvinistes et où naquit le complot des 4 sergents. Quand j'eus erré quelque temps par ces rues singulières, je montai sur un petit bateau à vapeur, noir et ventru, qui devait me conduire à l'île de Ré. Il partit en soufflant, d'un air colère, passa entre les 2 tours antiques qui gardent le port, traversa la rade, sortit de la digue construite par Richelieu et dont on voit à fleur d'eau les pierres énormes, enfermant la ville comme un immense collier. Puis il obliqua vers la droite. C'était un de ces jours tristes qui oppressent, écrasent la pensée, compriment le cœur, éteignent en nous toute force et toute énergie. Un jour gris, glacial, sali par une brume lourde, humide comme de la pluie, froide comme de la gelée, infecte à respirer comme une buée d'égout. Sous ce plafond de brouillard bas et sinistre, la mer jaune, la mer peu profonde et sablonneuse de ces plages illimitées, restait sans une ride, sans un mouvement, sans vie, une mer d'eau trouble, d'eau grasse, d'eau stagnante. Le Jean Guiton passait dessus en roulant un peu, par habitude, coupait cette nappe opaque et lisse, puis laissait derrière quelques vagues, quelques clapots, quelques ondulations qui se calmaient bientôt. Je me mis à causer avec le capitaine, un petit homme presque sans pattes, tout rond comme son bateau et balancé comme lui. Je voulais quelques détails sur le sinistre que j'allais constater. Un grand trois-mâts carré de Saint-Nazaire, le Marie-Joseph, avait échoué par une nuit d'ouragan sur les sables de l'île de Ré. La tempête avait jeté si loin ce bâtiment, écrivait l'armateur, qu'il avait été impossible de le renflouer et qu'on avait dû enlever au plus vite tout ce qui pouvait en être détaché. Il me fallait donc constater la situation de l'épave, apprécier quel devait être son état avant le naufrage, juger si tous les efforts avaient été tentés pour le remettre à flot. Je venais comme agent de la compagnie pour témoigner ensuite contradictoirement, si besoin était, dans le procès. Au reçu de mon rapport, le directeur devait prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour sauvegarder nos intérêts. Le capitaine du Jean Guiton connaissait parfaitement l'affaire, ayant été appelé à prendre part, avec son navire, aux tentatives de sauvetage. Il me raconta le sinistre, très simple d'ailleurs. Le Marie-Joseph, poussé par un coup de vent furieux, perdu dans la nuit, naviguant au hasard sur une mer d'écume, une mer de soupe au lait, disait le capitaine, était venu s'échouer sur ces immenses bancs de sable qui changent les côtes de cette région en Saharas illimités aux heures de la marée basse. Tout en causant, je regardais autour de moi et devant moi. Entre l'océan et le ciel pesant, restait un espace libre où l'œil voyait au loin. Nous suivions une terre. Je demandai : C'est l'île Dorée ?
Oui, monsieur.
Et tout à coup, le capitaine, étendant la main droite devant nous, me montra, en pleine mer, une chose presque imperceptible et me dit :
Tenez, voilà votre navire.
Le Marie-Joseph ?
Mais oui.
J'étais stupéfait. Ce point noir, à peu près invisible, que j'aurais pris pour un écueil, me paraissait placé à 3 kilomètres au moins des côtes. Je repris. « Mais, capitaine, il doit y avoir 100 brasses d'eau à l'endroit que vous me désignez. » Il se mit à rire. « 100 brasses, mon ami ! Pas 2 brasses, je vous dis !» C'était un bordelais. Il continua. « Nous sommes marée haute. 9h40. Allez-vous-en par la plage, mains dans vos poches, après le déjeuner de l'hôtel du Dauphin, et je vous promets qu'à 2h50 ou 3h au plus, vous toucherez l'épave, pied sec, mon ami, et vous aurez 1h45 à 2h pour rester dessus, pas plus, par exemple. Vous seriez pris. Plus la mer, elle va loin, et plus elle revient vite. C'est plat comme une punaise, cette côte. Remettez-vous en route à 4h50, croyez-moi. Et vous remontez à 7h30 sur le Jean Guiton, qui vous dépose ce soir même sur le quai de La Rochelle. Je remerciai le capitaine et j'allai m'asseoir à l'avant du vapeur pour regarder la petite ville de Saint-Martin dont nous approchions rapidement. Elle ressemblait à tous les ports en miniature qui servent de capitale à toutes les maigres îles semées le long des continents. C'était un gros village de pêcheurs, un pied dans l'eau, un pied sur terre, vivant de poissons et de volailles, de légumes et de coquilles, de radis et de moules. L'île est fort basse, peu cultivée, et semble cependant très peuplée. Mais je ne pénétrai pas dans l'intérieur. Après avoir déjeuné, je franchis un petit promontoire. Puis comme la mer baissait rapidement, je m'en allais, à travers les sables, vers une sorte de roc noir que j'apercevais au-dessus de l'eau, là-bas, là-bas. J'allais vite sur cette plaine jaune, élastique comme de la chair, et qui semblait suer sous mon pied. La mer tout à l'heure était là. Maintenant, je l'apercevais au loin, se sauvant à perte de vue, et je ne distinguais plus la ligne qui séparait le sable de l'océan. Je croyais assister à une féerie gigantesque et surnaturelle. L'Atlantique était devant moi tout à l'heure, puis il avait disparu dans la grève, comme font les décors dans les trappes, et je marchais à présent au milieu d'un désert. Seule la sensation, le souffle de l'eau salée, demeurait en moi. Je sentais l'odeur du varech, l'odeur de la vague, la rude et bonne odeur des côtes. Je marchais vite, je n'avais plus froid. Je regardais l'épave échouée, qui grandissait à mesure que j'avançais, et ressemblait à présent à une énorme baleine naufragée. Elle semblait sortir du sol et prenait sur cette immense étendue plate et jaune des proportions surprenantes. Je l'atteignis enfin, après 1 heure de marche. Elle gisait sur le flanc, crevée, brisée, montrant comme les côtes d'une bête, ses os rompus, ses os de bois goudronnés, percés de clous énormes. Le sable déjà l'avait envahie, entrée par toutes les fentes, et il la tenait, la possédait, ne la lâchait plus. Elle paraissait avoir pris racine en lui. L'avant était entré profondément dans cette plage douce et perfide, tandis que l'arrière, relevé, semblait jeter vers le ciel, comme un cri d'appel désespéré, ces 2 mots blancs sur le bordage noir, « Marie-Joseph ». J'escaladai ce cadavre de navire par le côté le plus bas. Puis, parvenu sur le pont, je pénétrai dans l'intérieur. Le jour, entré par les trappes défoncées et par les fissures des flancs, éclairait tristement ces sortes de caves longues et sombres, pleines de boiseries démolies. il n'y avait plus rien là-dedans que du sable qui servait de sol à ce souterrain de planches. Je me mis à prendre des notes sur l'état du bâtiment. Je m'étais assis sur un baril vide et brisé, et j'écrivais à la lueur d'une large fente par où je pouvais apercevoir l'étendue illimitée de la grève. Un singulier frisson de froid et de solitude me courait sur la peau de moment en moment. Et je cessais d'écrire parfois pour écouter le bruit vague et mystérieux de l'épave. Bruit des crabes grattant les bordages de leurs griffes crochues, bruit de mille bêtes toutes petites de la mer installées déjà sur ce mort, et aussi le bruit doux et régulier du taré qui ronge sans cesse, avec son grincement de vrille, toutes les vieilles charpentes qu'il creuse et dévore. Et soudain, j'entendis des voix humaines tout près de moi. Je fis un bond comme en face d'une apparition. Je crus vraiment, pendant une seconde, que j'allais voir se lever, au fond de la sinistre cale, deux noyés qui me raconteraient leur mort. Certes, il ne me fallut pas longtemps pour grimper sur le pont à la force des poignets, et j'aperçus debout, à l'avant du navire, un grand monsieur avec trois jeunes filles, ou plutôt un grand Anglais avec trois misses. Assurément, ils eurent encore plus peur que moi en voyant surgir cet être rapide sur le trois-mâts abandonné. La plus jeune des fillettes se sauva. Les deux autres saisirent leur père à plein bras. Quant à lui, il avait ouvert la bouche. Ce fut le seul signe qui laissa voir son émotion. Puis après quelques secondes, il parla.
« Oh, monsieur, vous êtes le propriétaire de ce bâtiment ?»«
Oui, monsieur. »«
Est-ce que je pouvais le visiter ?»«
Oui, monsieur. » Il prononça alors une longue phrase anglaise où je distinguais seulement ce mot « gracious » revenu plusieurs fois. Comme il cherchait un endroit pour grimper, je lui indiquai le meilleur et je lui tendis la main. Il monta, puis nous aidâmes les trois fillettes rassurées. Elles étaient charmantes, surtout l'aînée, une blondine de 18 ans, fraîche comme une fleur et si fine, si mignonne. Vraiment, les jolies Anglaises ont bien l'air de tendres fruits de la mer. On aurait dit que celle-là venait de sortir du sable et que ses cheveux en avaient gardé la nuance. Elles font penser, avec leur fraîcheur exquise, aux couleurs délicates des coquilles rosées et aux perles nacrées, rares, mystérieuses, écloses dans les profondeurs inconnues des océans. Elle parlait un peu mieux que son père, et elle nous servit d'interprète. Il fallut raconter le naufrage dans ses moindres détails que j'inventais, comme si j'eusse assisté à la catastrophe. Puis, toute la famille descendit dans l'intérieur de l'épave. Dès qu'ils eurent pénétré dans cette sombre galerie, à peine éclairée, ils poussèrent des cris d'étonnement et d'admiration. Et soudain, le père et les trois filles tinrent en leurs mains des albums, cachés sans doute dans leurs grands vêtements imperméables, et ils commencèrent en même temps quatre croquis au crayon de ce lieu triste et bizarre. Ils s'étaient assis, côte à côte, sur une poutre en saillie, et les quatre albums, sur les huit genoux, se couvraient de petites lignes noires qui devaient représenter le ventre entrouvert du Marie-Joseph. Tout en travaillant, l'aînée des fillettes causait avec moi, qui continuait à inspecter le squelette du navire. J'appris qu'ils passaient l'hiver à Biarritz et qu'ils étaient venus tout exprès à l'île de Ré pour contempler ce trois-mâts enlisé. Ils n'avaient rien de la morgue anglaise, ces gens, c'étaient de simples et braves toqués de ces errants éternels dont l'Angleterre couvre le monde. Le père, long, sec, la figure rouge encadrée de favoris blancs, vrai sandwich vivant, une tranche de jambon découpée en tête humaine entre deux coussinets de poils, les filles, hautes sur jambes, de petits échassiers en croissance, sèches aussi, sauf l'aînée, et gentilles toutes trois, mais surtout la grande. Elle avait une si drôle de manière de parler, de raconter, de rire, de comprendre et de ne pas comprendre, de lever les yeux pour m'interroger, des yeux bleus comme l'eau profonde, de cesser de dessiner pour deviner, de se remettre au travail et de dire « yes » ou « no, que je serai demeuré un temps indéfini à l'écouter et à la regarder. Tout à coup, elle murmura. J'entendais un petit mouvement sur ce bateau. Je prêtai l'oreille, et je distinguai aussitôt un léger bruit, singulier, continu. Qu'était-ce? Je me levai pour aller regarder par la fente, et je poussai un cri violent. La mer nous avait rejoints, elle allait nous entourer. Nous fûmes aussitôt sur le pont. Il était trop tard, l'eau nous cernait, et elle courait vers la côte avec une prodigieuse vitesse. Non, cela ne courait pas, cela glissait, rampait, s'allongeait comme une tache démesurée. À peine quelques centimètres d'eau couvraient le sable, mais on ne voyait déjà plus la ligne fuyante de l'imperceptible flot. L'Anglais voulut s'élancer, je le retins. La fuite était impossible, à cause des mares profondes que nous avions dû contourner en venant et où nous tomberions au retour. Ce fut dans nos cœurs une minute d'horrible angoisse. Puis la petite Anglaise se mit à sourire et murmura. « Ça a été nous, les naufragés ?» Je voulus rire, mais la peur m'étreignait, une peur lâche, affreuse, basse et sournoise comme ce flot. Tous les dangers que nous courions m'apparurent en même temps. J'avais envie de crier « Au secours !» Vers qui ? Les deux petites Anglaises s'étaient blotties contre leur père qui regardait, d'un œil consterné, la mer démesurée autour de nous. Et la nuit tombait, aussi rapide que l'océan montant, une nuit lourde, humide, glacée. Je dis, il n'y a rien à faire qu'à demeurer sur ce bateau. L'Anglais répondit, oh yes. Et nous restâmes là un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais en vérité combien de temps, à regarder autour de nous cette eau jaune qui s'épaississait, tournait, semblait bouillonner, semblait jouer sur l'immense grève reconquise. Une des fillettes eut froid, et l'idée nous vint de redescendre pour nous mettre à l'abri de la brise légère mais glacée qui nous effleurait et nous piquait la peau. Je me penchai sur la trappe, le navire était plein d'eau. Nous dûmes alors nous blottir contre le bordage d'arrière qui nous garantissait un peu. Les ténèbres à présent nous enveloppaient et nous restions serrés les uns contre les autres, entourés d'ombre et d'eau. Je sentais trembler contre mon épaule l'épaule de la petite Anglaise dont les dents claquaient par instants. Mais je sentais aussi la chaleur douce de son corps à travers les étoffes et cette chaleur m'était délicieuse comme un baiser. Mais nous ne parlions plus, nous demeurions immobiles, muets, accroupis comme des bêtes dans un fossé aux heures d'ouragan. Et pourtant, malgré tout, malgré la nuit, malgré le danger terrible et grandissant, je commençais à me sentir heureux d'être là, heureux du froid et du péril, heureux de ces longues heures d'ombre et d'angoisse à passer sur cette planche, si près de cette jolie et mignonne fillette. Je me demandais pourquoi cette étrange sensation de bien-être et de joie qui me pénétrait. Pourquoi ? Sait-on ? Parce qu'elle était là, qui, elle, une petite Anglaise inconnue, je ne l'aimais pas, je ne la connaissais point, et je me sentais attendri, conquis. J'aurais voulu la sauver, me dévouer pour elle, faire mille folies. Étrange chose, comment se fait-il que la présence d'une femme nous bouleverse ainsi? Est-ce la puissance de sa grâce qui nous enveloppe, la séduction de la joliesse et de la jeunesse qui nous grise comme ferait le vin? N'était-ce pas plutôt une sorte de toucher de l'amour, du mystérieux amour qui cherche sans cesse à unir les êtres, qui tente sa puissance dès qu'il a mis face à face l'homme et la femme, et qui les pénètre d'émotion, d'une émotion confuse, secrète, profonde, comme on mouille la terre pour y faire pousser des fleurs? Mais le silence des ténèbres devenait effrayant, le silence du ciel, car nous entendions autour de nous, vaguement, un bruissement léger, infini, la rumeur de la mer sourde qui montait et le monotone clapotement du courant contre le bateau. Tout à coup, j'entendis des sanglots. La plus petite des Anglaises pleurait. Alors son père voulut la consoler, et ils se mirent à parler dans leur langue que je ne comprenais pas. Je devinais qu'il la rassurait et qu'elle avait toujours peur. Je demandai à ma voisine, « Vous n'avez pas trop froid, miss ?»«
Oh, si, j'avais froid beaucoup. »
Je voulus lui donner mon manteau, elle le refusa, mais je l'avais ôté. Je l'en couvris malgré elle. Dans la courte lutte, je rencontrai sa main, qui me fit passer un frisson charmant par tout le corps. Depuis quelques minutes, l'air devenait plus vif, le clapotis de l'eau plus fort contre les flancs du navire. Je me dressai. Un grand souffle me passa sur le visage. Le vent s'élevait. L'Anglais s'en aperçut en même temps que moi, et il dit simplement
« C'était mauvaise pour nous, cette... »
Assurément, c'était mauvais. C'était la mort certaine si des lames, même de faibles lames, venaient attaquer et secouer l'épave, tellement brisée et disjointe que la première vague un peu rude l'emporterait en bouillie. Alors, notre angoisse s'accrut de seconde en seconde avec les rafales de plus en plus fortes. Maintenant, la mer brisait un peu et je voyais dans les ténèbres des lignes blanches paraître et disparaître, des lignes d'écume, tandis que chaque flot heurtait la carcasse du Marie-Joseph, l'agitait d'un court frémissement qui nous montait jusqu'au cœur. L'Anglaise tremblait. Je la sentais frissonner contre moi et j'avais une envie folle de la saisir dans mes bras. Là-bas, devant nous, à gauche, à droite, derrière nous, des phares brillaient sur les côtes, des phares blancs, jaunes, rouges, tournants, pareils à des yeux énormes, à des yeux de géants qui nous regardaient, nous guettaient, attendaient avidement que nous eussions disparu. Un d'eux, surtout, m'irritait. Il s'éteignait toutes les 30 secondes pour se rallumer aussitôt. C'était bien un œil, celui-là, avec sa paupière sans cesse baissée sur son regard de feu. De temps en temps, l'Anglais frottait une allumette pour regarder l'heure, puis il remettait sa montre dans sa poche. Tout à coup, il me dit, par-dessus les têtes de ses filles, avec une souveraine gravité, « Monsieur, je vous souhaite bonne année. » Il était minuit. Je lui tendis ma main, qu'il serra. Puis il prononça une phrase d'anglais, et soudain, ses filles et lui se mirent à chanter le « God save the Queen » qui monta dans l'air noir, dans l'air muet, et s'évapora à travers l'espace. J'eus d'abord envie de rire, puis je fus saisi par une émotion puissante et bizarre. C'était quelque chose de sinistre et de superbe, ce chant de naufragé, de condamné, quelque chose comme une prière, et aussi quelque chose de plus grand, de comparable à l'antique et sublime Ave Caesa, Morituri, Te Salutant. Quand ils eurent fini, je demandai à ma voisine de chanter toute seule une ballade, une légende, ce qu'elle voudrait, pour nous faire oublier nos angoisses. Elle y consentit, et aussitôt, sa voix claire et jeune s'envola dans la nuit. Elle chantait une chose triste sans doute, car les notes traînaient longtemps, sortaient lentement de sa bouche et voletaient, comme des oiseaux blessés, au-dessus des vagues. La mer grossissait, battait maintenant notre épave. Moi, je ne pensais plus qu'à cette voix, et je pensais aussi aux sirènes. Si une barque avait passé près de nous, qu'auraient dit les matelots? Mon esprit tourmenté s'égarait dans le rêve. Une sirène, n'était-ce point en effet une sirène, cette fille de la mer qui m'avait retenu sur ce navire vermoulu et qui, tout à l'heure, allait s'enfoncer avec moi dans les flots? Mais nous roulâmes brusquement tous les 5 sur le pont, car la Marie-Joseph s'était affaissée sur son flanc droit. L'Anglaise étant tombée sur moi, je l'avais saisie dans mes bras et follement, sans savoir, sans comprendre, croyant venue ma dernière seconde, je baisais à pleine bouche sa joue, sa tempe et ses cheveux. Le bateau ne remuait plus. Nous autres aussi ne bougions point. Le père dit « Kate ?» Celle que je tenais répondit « Yes » et fit un mouvement pour se dégager. Certes, à cet instant, j'aurais voulu que le bateau s'ouvrît en deux pour tomber à l'eau avec elle. » L'Anglais reprit.
« Une petite bascule, ce n'était rien. J'avais mes trois filles conservées. »
Ne voyant point l'aînée, il l'avait cru perdue d'abord. Je me relevai lentement, et soudain, j'aperçus une lumière sur la mer tout près de nous. Je criai, on répondit. C'était une barque qui nous cherchait, le patron de l'hôtel ayant prévu notre imprudence. Nous étions sauvés. J'en fus désolé. On nous cueillit sur notre radeau et on nous ramena à Saint-Martin. L'Anglais, maintenant, se frottait les mains et murmurait
« Bonne souper, bonne souper !»
On soupa en effet. Je ne fus pas gai. Je regrettais le Marie-Joseph. Il fallut se séparer, le lendemain, après beaucoup d'étreintes et de promesses de s'écrire. Ils partirent vers Biarritz. Peu s'en fallut que je ne les suivisse. J'étais toqué. Je faillis demander cette fillette en mariage. Certes, si nous avions passé 8 jours ensemble, je l'épousais. Combien l'homme, parfois, est faible et incompréhensible. 2 ans s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'eux. Puis je reçus une lettre de New York. Elle était mariée et me le disait. Et depuis lors, nous écrivons tous les ans, au 1er janvier. Elle me raconte sa vie, me parle de ses enfants, de ses sœurs, jamais de son mari. Pourquoi? Ah, pourquoi? Et moi, je ne lui parle que du Marie-Joseph. C'est peut-être la seule femme que j'ai aimée. Non, que j'aurais aimée. Ah! Voilà, sait-on. Les événements vous emportent. Et puis, tout passe. Elle doit être vieille à présent. Je ne la reconnaîtrai pas. Ah, celle d'autrefois, celle de l'épave. Quelle créature divine! Elle m'écrivit que ses cheveux sont tout blancs. Mon Dieu, ça me fait une peine horrible. Ah, ses cheveux blonds! Non, la mienne n'existe plus. Que c'est triste, tout ça. Fin de l'épave. Découverte de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Boule de Suif de Guy de Maupassant. Découverte. Le bateau était couvert de monde. La traversée s'annonçant fort belle, les Havrais allaient faire un tour à Trouville. On détacha les amarres, un dernier coup de sifflet annonça le départ, et aussitôt un frémissement secoua le corps entier du navire, tandis qu'on entendait le long de ses flancs un bruit d'eau remué. Les roues tournèrent quelques secondes, s'arrêtèrent, repartirent doucement, puis le capitaine, debout sur sa passerelle, ayant crié par le porte-voix qui descend dans les profondeurs de la machine « En route !» elles se mirent à battre la mer avec rapidité. Nous filions le long de la jetée, couverte de monde. Des gens sur le bateau agitaient leurs mouchoirs comme s'ils partaient pour l'Amérique, et les amis restés à terre répondaient de la même façon. Le grand soleil de juillet tombait sur les ombrelles rouges, sur les toilettes claires, sur les visages joyeux, sur l'océan à peine remué par des ondulations. Quand on fut sorti du port, le petit bâtiment fit une courbe rapide, dirigeant son nez pointu sur la côte lointaine entrevue à travers la brume matinale. À notre gauche s'ouvrait l'embouchure de la Seine, large de 20 kilomètres. De place en place, les grosses bouées indiquaient les bancs de sable, et on reconnaissait au loin les eaux douces et bourbeuses du fleuve, qui, ne se mêlant point à l'eau salée, dessinaient de grands rubans jaunes à travers l'immense nappe verte et pure de la pleine mer. J'éprouve, aussitôt que je monte sur un bateau, le besoin de marcher de long en large, comme un marin qui fait le quart. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, je me mis à circuler sur le pont à travers la foule des voyageurs. Tout à coup, on m'appela. Je me retournai. c'était un de mes vieux amis, Henri Sidoine, que je n'avais point vu depuis 10 ans. Après nous être serré les mains, nous recommençâmes ensemble, en parlant de choses et d'autres, la promenade d'ours en cage que j'accomplissais tout seul auparavant. Et nous regardions, tout en causant, les deux lignes de voyageurs assis sur les deux côtés du pont. Tout à coup, Sidoine prononça avec une véritable expression de rage. « C'est plein d'anglais ici, les sales gens !» C'était plein d'anglais, en effet. Les hommes debout lorgnaient l'horizon d'un air important qui semblait dire « C'est nous, les Anglais, qui sommes les maîtres de la mer. Boum, boum, nous voilà !» Et tous les voiles blancs qui flottaient sur leurs chapeaux blancs avaient l'air des drapeaux de leur suffisance. Les jeunes miss plates, dont les chaussures aussi rappelaient les constructions navales de leur patrie, serrant en des châles multicolores leurs tailles droites et leurs bras minces, souriaient vaguement au radieux paysage. Leurs petites têtes, poussées au bout de ces longs corps, portaient des chapeaux anglais d'une forme étrange, et derrière leurs crânes, leurs maigres chevelures enroulées ressemblaient à des couleuvres loffées. Et les vieilles miss, encore plus grêles, ouvrant au vent leurs mâchoires nationales, paraissaient menacer l'espace de leurs dents jaunes et démesurées. On sentait, en passant près d'elles, une odeur de caoutchouc et d'eau dentifrice. Sidoine répéta avec une colère grandissante. « Les sales gens! On ne pourra donc pas les empêcher de venir en France !» Je demandai en souriant. « Pourquoi leur en veux-tu? Quant à moi, ils me sont parfaitement indifférents. » Il prononça. « Oui, toi, parbleu, mais moi, j'ai épousé une Anglaise, voilà. » Je m'arrêtai pour lui rire au nez. « Ah, diable, conte-moi ça. Elle te rend donc très malheureux ?» Il haussa les épaules. « Non, pas précisément. Alors, elle te trompe ?»« Malheureusement, non. Ça me ferait une cause de divorce et j'en serais débarrassé. » « Alors, je ne comprends pas. » « Tu ne comprends pas ? Ça ne m'étonne point. Eh bien, elle a tout simplement appris le français, pas autre chose. Écoute. » Je n'avais pas le moindre désir de me marier quand je vins passer l'été à Étretat, voici 2 ans. Rien de plus dangereux que les villes d'eau. On ne se figure pas combien les fillettes y sont à leur avantage. Paris sied aux femmes et la campagne aux jeunes filles. Les promenades à âne, les bains du matin, les déjeuners sur l'herbe, autant de pièges à mariage. Et vraiment, il n'y a rien de plus gentil qu'une enfant de 18 ans qui court à travers un champ ou qui ramasse des fleurs le long d'un chemin. Je fis la connaissance d'une famille anglaise descendue au même hôtel que moi. Le père ressemblait aux hommes que tu vois là et la mère à toutes les Anglaises. Il y avait 2 fils, de ces garçons tout en os, qui jouent du matin au soir à des jeux violents, avec des balles, des massues ou des raquettes. Puis 2 filles, l'aînée, une sèche, encore une Anglaise de boîte à conserve, la cadette, une merveille. Une blonde, ou plutôt une blondine avec une tête venue du ciel. Quand elles se mettent à être jolies, les gredines, elles sont divines. Celle-là avait des yeux bleus, de ces yeux bleus qui semblent contenir toute la poésie, tout le rêve, toute l'espérance, tout le bonheur du monde. Quel horizon ça vous ouvre dans les songes infinis, 2 yeux de femme comme ceux-là. Comme ça répond bien à l'attente éternelle et confuse de notre cœur. Il faut dire aussi que nous autres Français, nous adorons les étrangères. Aussitôt que nous rencontrons une Russe, une Italienne, une Suédoise, une Espagnole ou une Anglaise un peu jolie, nous en tombons amoureux instantanément. Tout ce qui vient du dehors nous enthousiasme. Draps pour culottes, chapeaux, gants, fusils et femmes. Nous avons tort, cependant. Mais je crois que ce qui nous séduit le plus dans les exotiques, c'est leur défaut de prononciation. Aussitôt qu'une femme parle mal notre langue, elle est charmante. Si elle fait une faute de français par mot, elle est exquise. Et si elle baragouine d'une façon tout à fait inintelligible, elle devient irrésistible. Tu ne te figures pas comme c'est gentil d'entendre dire à une mignonne bouche rose « J'aimais beaucoup la gigotte ». Ma petite Anglaise Kate parlait une langue invraisemblable. Je n'y comprenais rien dans les premiers jours, tant elle inventait de mots inattendus, puis je devins absolument amoureux de cet argot comique et gai. tous les termes estropiés, bizarres, ridicules, prenaient sur ses lèvres un charme délicieux. Et nous avions le soir, sur la terrasse du casino, de longues conversations qui ressemblaient à des énigmes parlées. Je l'épousais. Je l'aimais follement comme on peut aimer un rêve, car les vrais amants n'adorent jamais qu'un rêve qui a pris une forme de femme. Te rappelles-tu les admirables vers de Louis Bouilhet ? Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archer vainqueur. Et comme un air qui sonne au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur. Eh bien, mon cher, le seul tort que j'ai eu, ça a été de donner à ma femme un professeur de français. Tant qu'elle a martyrisé le dictionnaire et supplicié la grammaire, je l'ai chérie. Nos causeries étaient simples. Elle me révélait la grâce surprenante de son être, l'élégance incomparable de son geste. Elle me la montrait comme un merveilleux bijou parlant, une poupée de chair faite pour le baiser, sachant énumérer à peu près ce qu'elle aimait, pousser parfois des exclamations bizarres et exprimer d'une façon coquette, à force d'être incompréhensible et imprévue, des émotions ou des sensations peu compliquées. Elle ressemblait bien aux jolis jouets qui disent « papa et maman » en prononçant « baba et baban ». Aurais-je pu croire que... Elle parle à présent. Elle parle mal, très mal. Elle fait tout autant de fautes, mais on la comprend. Oui, je la comprends. Je sais, je la connais. J'ai ouvert ma poupée pour regarder dedans. J'ai vu. Et il faut causer, mon cher. Ah, tu ne les connais pas, toi, les opinions, les idées, les théories d'une jeune Anglaise bien élevée, à laquelle je ne peux rien reprocher et qui me répète du matin au soir toutes les phrases d'un dictionnaire de la conversation à l'usage des pensionnats de jeunes personnes. Tu as vu ces surprises du cotillon, ces jolis papiers dorés qui renferment d'exécrables bonbons? J'en avais une, je l'ai déchirée, j'ai voulu manger le dedans et je suis resté tellement dégoûté que j'ai des hauts le cœur à présent, rien qu'en apercevant une de ses compatriotes. J'ai épousé un perroquet à qui une vieille institutrice anglaise aurait enseigné le français. Comprends-tu? Le port de Trouville montrait maintenant ses jetées de bois couvertes de monde. Je dis « Où est ta femme ?» Il prononça « Je l'ai ramenée à Étretat. Et toi, où vas-tu » « Moi, je vais me distraire à Trouville. » Puis, après un silence, il ajouta « Tu ne te figures pas comme ça peut être bête quelquefois une femme. » Fin de Découverte.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.